Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile.
On le sait, la meilleure idée écolo au boulot du monde ne fonctionne pas si vos collègues, vos équipes ou même vos directions ne l'acceptent pas. Il faut donc convaincre, embarquer avec soi dans un projet ou une idée. Et la grande question, c'est comment faire ? Bonne nouvelle ! J'ai découvert un nouveau livre que j'ai tout de suite mis dans ma bibliothèque d'outils. Il s'appelle « Impliquer vraiment les salariés », c'est 20 pistes d'action pour renouer la collaboration entreprise-collaborateur. Donc, c'est un livre très large sur l'engagement collaborateur dans l'entreprise et il y a un chapitre dédié à la RSE, voilà, sur comment on peut impliquer les salariés dans une démarche responsable d'entreprise. Et j'ai la joie aujourd'hui d'accueillir ces deux auteurs, Fabienne Ravassar et Gaëlle Roudot, sur le podcast. Bienvenue à vous deux.
Bonjour.
Alors Fabienne, vous vous décrivez comme Human Addict. Vous avez fondé Bayerla, une agence de conseil en communication et dynamique d'entreprise. Gaëlle, vous vous définissez de user-centric et vous avez plein de casquettes. Transformation digitale en entreprise, facilitation graphique, rédactrice dans le Magarache. Et vous avez notamment illustré le livre aussi, en plus de l'écrire avec des pastilles humoristiques, ce qui rendait la lecture encore plus concrète et sympa. Donc, merci d'être sur le podcast pour partager vos conseils. Alors pour commencer, en fait j'ai eu l'impression que la RSE n'était pas spécialement votre sujet principal, vous étiez plutôt sur l'approche RH en entreprise, transformation, communication. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire un chapitre sur la RSE ? Est-ce que c'est parce que c'est un sujet qui personnellement vous touche, qui vous motive, ou est-ce que c'est parce que vous avez quand même mis des démarches de ce type en place dans vos missions ?
Alors Cassandre, je vais commencer à répondre, je suis Fabienne Ravassar. Je voudrais commencer en disant qu'évidemment ce sujet nous touche d'abord à titre personnel. L'une et l'autre, Gaëlle en parlera aussi, et bien sûr c'est une des raisons pour lesquelles il fallait que ce sujet soit présent dans le livre, aussi parce que c'est un sujet qui concerne absolument toutes les entreprises aujourd'hui, toutes les organisations publiques, privées, et que on voit bien au travers de nos missions que c'est un sujet qui questionne énormément les entreprises, justement, sur comment pouvoir impliquer les collaborateurs sur la stratégie RSE. Et ça nous touche aussi parce que ce qu'on a constaté en commençant à écrire le livre, et c'est finalement la toile de fond, la problématique RSE de ce livre, c'est que depuis quelques mois, on va dire quelques années, tout a changé. Et dans ce qui a changé dans les relations de l'entreprise aux salariés, c'est ce qui se produit au niveau de l'environnement. C'est le fait que la manière dont chacun, qu'on soit entreprise, organisation, équipe, association ou personne individuelle, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour vivre notre relation aux ressources de la planète ? On est obligé de changer, on est obligé de changer de grammaire. Et ça, c'est la toile de fond de tout ce qui fait que ça provoque un changement fondamental aujourd'hui dans les entreprises, auprès des collaborateurs. Et c'était donc un sujet qu'il fallait qu'on traite en tant que tel pour pouvoir commencer à construire ces nouvelles relations qu'on propose dans le livre.
Donc oui, comme Fabienne, moi je pense aussi qu'aujourd'hui personne ne peut ignorer les défis de l'environnement face auxquels nous sommes tous, je dirais, à égalité, hein, qu'on soit entreprise, salarié ou d'ailleurs citoyen. On est tous face à cela, et c'est vrai que ce que j'observe depuis quelques années dans les entreprises que j'accompagne dans leurs projets digitaux, c'est l'émergence notamment sur les intranets de rubriques dédiées au développement durable, à la RSE. Alors au départ, c'est souvent des espaces qui sont un petit peu institutionnels, un peu informatifs, qui sont à l'initiative de la direction et qui ont parfois d'ailleurs du mal à vivre. Et c'est vrai que pour nous, ce genre d'espace sur des intranets d'entreprise, c'est une vraie opportunité aussi pour animer une dynamique RSE, au-delà finalement de publier régulièrement des articles de fond sur l'actualité développement durable de l'entreprise, son bilan carbone, ses engagements, etc. C'est aussi des lieux où on peut partager via des espaces de discussion sur les temps forts de l'entreprise, sur ses engagements, voilà, la mise en place d'une journée zéro déchet, la semaine du développement durable, etc. Mais on peut aussi profiter de formats comme des blogs pour donner la parole, hein, une véritable tribune en fait, à des collaborateurs qui sont ambassadeurs, un peu plus engagés sur ces sujets-là, pour qu'ils viennent témoigner aussi de leurs convictions. On peut aussi construire, coécrire une charte de l'entreprise durable, organiser des réflexions sur la mission de l'entreprise, échanger des bonnes pratiques pour diminuer son empreinte et devenir plus écolo au boulot. Voilà finalement un tas de pistes à explorer sur lesquelles on a aussi envie de continuer à accompagner nos clients et qu'on voulait aussi absolument aborder dans l'ouvrage.
Ok, donc c'est peut-être un premier conseil finalement, utiliser l'intranet de l'entreprise pour communiquer, impliquer sur les sujets RSE.
Ça en fait partie, c'est une piste à explorer en tout cas, oui.
Ok, on commence tout de suite dans les conseils, j'adore. Alors dans votre livre, j'ai eu cette impression qu'il y a un peu une hygiène de l'implication et de la collaboration avec les collaborateurs qu'il faut mettre en place au quotidien. C'est pas juste le jour où on a un projet et qu'on se dit ben tiens, il faut que j'implique mes collaborateurs, que ça se fait. C'est un peu sur du temps long. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la base de la vie en entreprise pour bien s'entourer et être capable d'impliquer les collaborateurs?
Ouh là là, vaste question. En tout cas, j'aime beaucoup votre expression d'hygiène. On va peut-être la garder si vous nous y autorisez. Cette hygiène de l'implication. Effectivement, c'est le temps long, bien entendu. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire « Tiens, j'ai un truc à partager, il faut que j'implique les gens là-dessus, j'ai besoin d'eux. » Tout d'un coup, on réalise qu'on a besoin des collaborateurs pour qu'un projet devienne vraiment conséquent et réel. Et là, il est déjà trop tard, en réalité. La manière vraiment de motiver, elle s'appuie, et dans le livre, on l'explique dans un chapitre consacré à la motivation, justement, elle s'appuie sur trois différentes façons qu'ont les gens, en général, dans la vie, d'être motivés et de se sentir impliqués. Ces trois choses-là, c'est le PAE, pensée, action, émotion, et c'est notre Graal, voilà. Alors, si on parle d'hygiène, c'est notre savon.
Est-ce qu'on peut les répéter, si c'est le Graal, pour être sûr qu'on les ait bien entendus?
Alors, pensée, action, émotion, je vais les détailler maintenant, hein. En parlant d'hygiène, c'est la serviette, le savon et l'eau. Voilà, hein, c'est les trois éléments clés. Donc, certaines personnes sont impliquées parce qu'elles comprennent. Elles comprennent ce qu'on leur a dit. Donc, il faut expliquer. Donc, vous avez un projet important. Il est important dans l'entreprise que vous l'expliquiez, que vous lui donniez du sens au sens signification. Mais d'autres personnes, vous pourrez leur expliquer, ça ne les concernera pas. Ce qui les concernera, ce qui fera qu'elles se sentiront impliquées, c'est le E de émotion. C'est des personnes qui ont besoin de se sentir en relation, de se sentir valorisées, de se sentir bien dans l'entreprise. Et donc, ça va nécessiter, pour que votre projet les implique, qu'elles se sentent émotionnellement concernées. Voilà, donc c'est de la relation, c'est de l'échange. C'est beaucoup de petits soins, c'est tout ce qui va faire que l'harmonie finalement entre votre projet et ces personnes-là existera. Et bien que vous ayez fait ça aussi, vous avez expliqué, donc vous êtes allé chercher les personnes qui sont dans le P, dans la pensée, vous êtes allé chercher les gens qui sont dans l'émotion, vous avez une catégorie de gens dans l'entreprise toujours, et on en trouve beaucoup parmi les commerciaux, mais pas que, qui sont plutôt dans l'action, qui veulent produire, qui veulent faire, qui veulent agir, qui ont besoin d'action-réaction et qui ont même parfois besoin de challenge. C'est pour ça que je parle des commerciaux qui ont besoin d'être sur la première marche du podium. Ces gens-là, il faut aller les chercher par rapport à ces projets dans tout ce qui va concerner leur capacité d'agir et d'être utile. Et tous les dispositifs d'implication, quels qu'ils soient, mais ceux de la RSE encore plus, parce que on sent bien que ça implique quelque chose de l'ordre un petit peu du personnel, hein, ce sujet de RSE. Il faut vraiment mettre en place ces trois dispositifs-là complémentaires qui vont permettre d'aller chercher la pensée et l'action et l'émotion dans l'ensemble du collectif de l'entreprise. Parce que l'implication, ça commence par le collectif. Donc ça, c'est vraiment essentiel et c'est vraiment la petite potion magique, la bonne douche à prendre pour l'hygiène. Voilà.
Ok, et pour que ce soit un peu plus concret, est-ce que vous auriez un exemple de comment on fait ça sur un projet ou au quotidien pour aller sur ces trois leviers-là? Parce qu'autant l'action, comprendre, je vois, c'est plus sur l'émotionnel presque que ça, c'est un peu moins palpable.
Je vais prendre l'exemple tout simple d'un discours d'un responsable RSE qui va expliquer son projet lors d'un séminaire de manager, par exemple. Et donc, il va prendre le temps d'expliquer en quoi la stratégie RSE se raccroche à la stratégie de l'entreprise. Il va mettre beaucoup d'intelligence, il va mettre beaucoup de valeurs et de convictions. Ça va aller toucher les gens qui, effectivement, ont besoin de comprendre et de se sentir concernés par la pensée. Il va présenter le plan d'action. Donc, ça va permettre aux gens qui sont dans l'action de dire, OK, ben, on voit ce qu'on va faire, c'est concret, on va ouvrir tel projet, tel autre, voilà le planning, tout va bien. Et puis, cette personne-là, elle va juste oublier de dire que cette stratégie-là, elle l'a pas construite toute seule, mais elle a construit avec de nombreuses personnes qui ont contribué et qui ont été vraiment actrices aussi de l'élaboration de ce projet, et qu'elle les remercie. Et que elle sait que c'est pas tout seul ou pas juste avec un plan d'action et un planning qu'on va réussir, mais c'est parce qu'on va tous être ensemble motivés pour le faire. Et là, elle va aller toucher ce profil émotion qu'elle aura oublié dans son discours, tout simplement, de toucher. Donc voilà, c'est un tout petit exemple. Ça permet de aussi bien, quand on prépare un discours, de s'assurer qu'on touche les trois profils par rapport au collectif auquel on va s'adresser, mais ça touche aussi, ça peut concerner dans un gros projet qu'on va lancer, plus large, de se dire comment est-ce qu'on va faire pour aller faire en sorte que les gens qui ont besoin de relations puissent exprimer ce besoin-là et puissent être nourris dans ce besoin-là pendant l'élaboration du projet. Voilà. Par la reconnaissance, par dépôt, voilà, je sais pas quoi, dans l'entreprise, il y a plein de choses possibles à faire pour que la convivialité soit présente et que la reconnaissance des émotions aussi et des difficultés, accuser réception, c'est aussi quelque chose qui est très important. C'est difficile de mettre en place un dispositif RSE, et si vous oubliez d'accuser réception des difficultés, vous ne parlez pas au profil émotion. Donc voilà deux exemples concrets pour parler à ces profils émotions là, par rapport à des sujets comme ceux qui vous passionnent.
Bon, super. Et oui, en effet, c'est peut-être quelque chose qu'on oublie assez régulièrement de faire. Enfin, remercier les personnes. En fait, on le sait que c'est grâce à plein de monde qu'on arrive à mettre en place des projets. Ça paraît presque évident, on ne le dit pas. Et,
on ne le dit pas. Ouais.
C'est très important à dire.
C'est ça, exactement.
Ouais, ouais. Et on voit bien qu'aussi, ça peut être typiquement ce profil de personne qui va se frustrer, être frustré se bloquer parce qu'il manque ce truc-là.
Exactement, tout à fait. Mais de même, vous pouvez bloquer si vous avez des belles palabres bien construites et puis qu'il n'y a pas de plan d'action derrière. Vous allez frustrer tous ceux qui ont besoin de faire des trucs. Voilà, c'est tout ça.
Ouais, les gens comme moi, s'il n'y a pas d'action, voilà. Je ne comprends pas à quoi ça sert ce qu'on me dit.
Et ben voilà. Et
vous reconnu.
Vous énerver, à blâmer, et à reprocher ceci et cela à l'entreprise.
Et là, on parle, ça ne sert à rien, trop de blabla.
Exactement, voilà, tout à fait. Ça y est, vous les avez les trois, c'est bon.
Ok. Bon, bah alors déjà, on a cette première action à mettre en place dès qu'on veut communiquer, mettre en place un projet, bien penser à comment on va impliquer les personnes selon ces trois profils-là, donc ceux qui vont être plus pensée, action, émotion. Bon. Et je vous avais prévenu que j'allais vous poser la question à 1 million, la plus difficile, qui est, bah, en fait, une fois qu'on a fait ça, qu'on a essayé d'expliquer les choses selon trois visions de ce que c'est le sens, comment est-ce qu'on convainc les autres à nous suivre après leur avoir dit ça? Et la question, elle se pose, en fait, qu'on soit un directeur RSE ou qu'on soit un simple collègue, parce que c'est aussi le cas de... Déjà, quand on est directeur RSE, on est collègue de quelqu'un. Mais aussi, voilà, il y a plein de personnes qui écoutent ce podcast qui ne sont pas à ces fonctions-là, mais qui ont besoin de convaincre autour d'elles, d'impliquer, d'embarquer. Donc, en fait, au-delà de bien présenter les choses, comment on fait?
Alors ça, c'est vraiment la question à 1 million. Comment convaincre? Donc, effectivement, il y a bien sûr nourrir ces trois besoins, comme l'évoquait Fabienne, et on voit bien à quel point ça peut être essentiel. Et puis, en matière de RSE, et finalement, d'ailleurs, pour tous les types de projets, parce qu'il y a beaucoup de transformations qui touchent les organisations en ce moment. Il y a quelque chose qui fonctionne, c'est ce qu'on appelle les petites victoires. Alors ce mot-là, il n'est pas de nous, hein, il vient de Philippe Silbertson, qui est un entrepreneur, auteur et professeur à l'OMU, qui a écrit un ouvrage sur ce sujet-là. Et il explique que finalement, quand on parfois, on est face à des projets longs, complexes, comme celui de mettre en place voilà, un programme RSE dans son entreprise, ou même des choses parfois d'échelle plus modeste. Mais le fait d'être dans un projet qui, quelque part, promet un grand soir, mais finalement, c'est un long tunnel et on n'en voit pas le bout, ben, ça a tendance, bien évidemment, à épuiser, et même les personnes les plus motivées. Et en fait, il incite, et nous, on trouve que c'est vraiment une approche qui est très intéressante, en particulier d'ailleurs quand on n'est pas forcément à des hauts niveaux de responsabilité, de se dire bah, commençons par agir localement sur des petits périmètres avec un peu nos moyens du bord, avec des personnes qu'on va réussir à intéresser autour de soi, et puis en remportant facilement, plus rapidement des premiers succès, eh bien, par effet un petit peu de ricochet, ça va permettre de faire bouger les lignes plus largement. Et en fait, Philippe Silbertson, il porte notamment en France, un concept qu'on appelle l'effectuation, qui est la stratégie des entrepreneurs qui réussissent. Alors, les entrepreneurs qui réussissent, contrairement à ce qu'on peut croire, ne sont pas des super-héros ou des super-businessmen avec un énorme business plan à 10 ans sur leur projet. Non, c'est vraiment des gens qui commencent d'abord par faire avec ce qu'ils ont, donc encore une fois, avec leurs moyens du bord, qui résonne en perte acceptable, c'est-à-dire on n'est pas là pour prendre des risques inconsidérés, donc on va juste dire qu'est-ce que je suis prêt à faire pour déployer ce projet, pour faire un peu bouger les lignes, est-ce que j'ai peut-être un peu de temps à dépenser, un peu d'argent. Et puis, encore une fois, c'est des gens qui vont aller chercher de l'aide, trouver d'autres personnes ressources, d'autres expertises, qui vont les associer à leur projet pour faire bouger. Et puis, c'est aussi l'effectuation, être capable de tirer parti des surprises. On le disait, hein, Fabienne le disait tout à l'heure, tout a changé, le monde dans lequel on vit aujourd'hui est très incertain, très imprévisible. Donc c'est aussi apprendre à composer avec toutes ces incertitudes pour en faire quelquefois des opportunités. Et ça, je dirais, c'est à la portée finalement de tout un chacun. Et puis la dernière clé de l'effectuation, c'est de créer le contexte, c'est-à-dire son terrain de jeu, celui sur lequel on veut agir. Et ça n'a pas besoin d'être un grand terrain de jeu. Non, encore une fois, si on veut obtenir des résultats tangibles rapidement, hein, des petites victoires, et on peut commencer à faire des choses tout simplement autour de soi. Et à partir du moment où on a ces premiers retours positifs, ces premières victoires en poche, ça devient aussi beaucoup plus facile de convaincre autour de soi, que ce soit des collègues, mais aussi un comité de direction, des managers, etc., etc. Donc voilà, commencer par des choses simples, peut-être moins ambitieuses, mais qui auront plus de chances d'aboutir en s'entourant des personnes qui peuvent nous aider.
Ouais, complètement. Moi, ce que j'entends, c'est vraiment ça, c'est la simplicité de on peut avoir un projet ambitieux, mais le mettre en œuvre de manière par étapes et des étapes assez simples, ça me fait penser à je ne sais pas si c'est une théorie officielle, mais la théorie des petits pas, de dire on va avancer petit à petit, moi ça me fait penser à ça un petit peu. Et en fait, à chaque petit pas, on va célébrer ce petit pas en disant ça y est, on a atteint un truc.
Exactement, et vous mettez le mot célébration, Cassandre, qui est essentiel en fait, ces victoires qui finalement peuvent être les premiers bouts d'un projet plus grand, hein. C'est important aussi de les célébrer, et c'est aussi dans ces moments-là qu'on va pouvoir continuer à finalement faire venir de nouvelles personnes pour faire grandir les rangs, entre guillemets, du projet, et par effet de ricochet, de domino, peu importe, faire bouger les lignes petit à petit dans l'entreprise.
Ok, ça me parle beaucoup, ça me fait penser à, je crois que j'ai déjà raconté cette anecdote dans le podcast, mais j'avais envie de faire un jardin partagé entre plusieurs entreprises, avec plein de salariés, etc. Et je m'étais un peu cassé les dents parce que c'était vraiment un très gros projet, il y avait plein de paramètres, etc. Et en fait, je me suis dit, mais ne serait-ce que dans mon entreprise, on n'a même pas un pot de basilic dans la cuisine, quoi. Genre, peut-être qu'il faut commencer par les bases. Genre, on commence à faire un truc petit avant de... Et peut-être qu'après, on voudra faire un immense jardin. Mais déjà, si on arrive à faire pousser du basilic, ça peut être bien dans un premier temps.
Exactement. Et là, vous êtes, dans le faire avec ce qu'on a de l'effectuation. Donc, voilà, commencer par regarder autour de soi et voir ce qu'on a sous le coude. Et puis en parler et se rendre compte qu'il y a des gens que ça va peut-être intéresser, qui vont avoir aussi des ressources à apporter, etc. etc.
Ouais, et en parler, je pense que c'est aussi important dans la mesure où parfois on a envie de faire des choses, mais tant qu'on le communique pas, ça avance pas. Et des fois, on se dit, j'ai parlé 5 minutes avec quelqu'un et ça m'a débloqué complètement et je sens qu'on va avancer. C'est fou de se dire... Je savais pas comment faire, je ruminais toute seule pendant des semaines et en fait, d'un coup, tout s'éclaire.
Et oui, ça c'est le principe 2, c'est le principe de demander de l'aide, quoi. C'est-à-dire demander de l'aide au sens parler de son projet.
Ouais. Ouais.
Et ça rend intelligent ensemble, c'est ça qui est magique.
Donc si je résume, comment est-ce qu'on convainc les autres, c'est qu'on va essayer de commencer... petit, commencer simplement sur un périmètre qui est peut-être plus propice au changement.
Exactement.
On va commencer par nos 2-3 collègues, le sujet, le projet qui fait consensus.
Oui, qui fait consensus ou qui questionne ou qui arrive à un moment où finalement on sent qu'il peut y avoir une appétence de l'organisation, que le contexte est éventuellement favorable ou propice, hein, c'est le terrain de jeu finalement que décrit Philippe Silbersan dans son ouvrage sur l'effectuation. Et ça, quand on a un projet quel qu'il soit, on le sent en fait en général ça. Et quand on commence à en parler, on a tous ces signaux aussi des personnes autour de soi qui vont vouloir monter à bord, aider, etc.
Ok, ouais, on entend à nouveau le fait de saisir l'opportunité, de sentir l'opportunité aussi, ce que vous dites. Ça marche. Et malgré tout... impliquer, ça reste difficile. Vous, c'est quoi les plus grandes difficultés que vous avez vues, que vous avez repérées, que vous avez connues en entreprise pour impliquer les salariés? C'est quoi qui est le plus difficile?
Alors, sur le sujet de la RSE en particulier, c'est une question qui est vraiment intéressante au-delà de tout ce qu'on a pu déjà commencer d'aborder ensemble. On le disait, la RSE, c'est un sujet incontournable et qui préoccupe de plus en plus les entreprises aujourd'hui. Elles ont pris conscience, elles prennent conscience de leurs impacts sur l'environnement, sur la société. Elles cherchent à réduire ces impacts. Et puis, elles ont aussi vu une occasion en or, hein, si on peut dire, pour redorer leur image de marque en particulier, vis-à-vis des consommateurs et vis-à-vis du grand public. Et du coup, ce faisant, elles sont, pour certaines, un peu tombées dans le piège du greenwashing. Donc, c'est un concept que vous avez sans doute déjà abordé dans des précédentes émissions. Et en fait, ce qui nous frappe, c'est qu'aujourd'hui, alors en particulier sur les sujets de RSE, mais pas que, les salariés perçoivent en fait les incohérences, les dissonances qu'il peut y avoir entre un discours bourré de paillettes, dans l'air du temps, entre guillemets, et puis les actions qui sont réellement menées dans l'entreprise. Et finalement, pour nous, il est de plus en plus difficile pour les entreprises de tenir des discours soi-disant éthiques et responsables si ces discours ne font pas véritablement écho au vécu des salariés au quotidien.
Ce qu'on pourrait ajouter aussi à ce sujet, c'est que les entreprises ont une activité polluante ou pas trop polluante, qui est en alignement avec les obligations aujourd'hui RSE ou pas, mais finalement trop souvent elles ont tendance à mettre en place des stratégies RSE qui soient pas directement liées au cœur de métier de l'entreprise. Or les collaborateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent travailler tous les jours, ils viennent exercer un métier et souvent dans le cœur de métier de cette entreprise-là. Et là où se posent les difficultés d'implication sur les sujets RSE, c'est lorsque la stratégie RSE d'entreprise est trop éloignée, finalement, du cœur de métier d'entreprise. Et là, la solution à laquelle on croit beaucoup c'est que vraiment la RSE, qui soit la stratégie qui soit mise en place, même si elle est pas très ambitieuse, parce qu'elle est difficile à mettre en place, si elle concerne vraiment le cœur de travail, le cœur de métier, la raison d'être, je dirais, de l'entreprise, et que cette entreprise-là, qui en modifiant une ligne de fabrication va permettre d'utiliser moins d'électricité ou je sais pas, ou d'utiliser des matériaux différents, et que ça vient toucher le cœur d'activité, et que les salariés s'aperçoivent que l'effort que fait l'entreprise, il n'est pas juste sur aller nettoyer des plages parce que c'est plus facile d'organiser ça avec un organisme spécialisé, ou de trier les bouteilles plastiques, même si bien sûr il faut que tout le monde le fasse et c'est très important qu'elle le fasse, mais si elle fait ce pas de plus, même s'il est difficile, même s'il est compliqué, mais qu'elle explique aux collaborateurs pourquoi c'est important qu'elle le fasse, elle aura moins de chances de désimpliquer ses collaborateurs. Et puis là, elle sera plus du tout dans le greenwashing. Voilà. Et elle sera dans l'authenticité. Et je crois que c'est aussi peut-être un mot qui apparaît pas tel quel dans le livre, mais c'est ça qui fait la différence auprès des collaborateurs pour les impliquer, c'est qu'ils ressentent, qu'ils perçoivent cette authenticité-là. Voilà. Et nous, on pense que c'est ce qu'il faut vraiment chercher à faire au maximum. C'est pas toujours facile, on en a bien conscience. Hein.
Ouais, c'est d'ailleurs, c'est quelque chose que vous abordez dans le livre. Vous faites la différence entre les salariés de terrain qui sont au cœur de l'activité de l'entreprise et les fonctions support qui, elles, en fait, vont se nourrir de choses un peu à l'extérieur de l'entreprise pour s'alimenter dans leur métier, mais vont peut-être être un peu éloignés du cœur de l'entreprise, alors que clairement, c'est ceux qui sont sur le terrain qui font et qui savent aussi. Et que ce lien-là entre les deux, il est hyper important à nouer, à renouer, à entretenir.
C'est exactement ça. Et à tel point que on pense même que, comme vous le dites très justement, les fonctions support, elles ont besoin de s'alimenter de l'extérieur, de choses qui viennent de façons travailler différentes, etc., pour justement aussi renouveler leur méthodologie, leur travail. Mais ce faisant, ça devient les bullshit jobs aussi. Et il y a beaucoup de fonctions support qui se trouvent un peu perdues parce qu'elles perdent le sens. Elles font des rapports pour faire des rapports, elles font des tableaux Excel pour des tableaux Excel, elles mettent en place des nouveautés pour mettre en place des nouveautés parce qu'elles ont trouvé tout ça à l'extérieur et c'est important d'être dans le mood. Mais ce faisant, elles sont détachées, en fait. Et c'est ce que les sociologues des entreprises distinguent en appelant leur travail le travail prescrit et le travail du cœur de métier, le travail réel. Et nous, on croit que redonner du sens aussi aux fonctions support, ça passe par les faire reconnecter avec le travail réel. Voilà. Et mettre le travail réel et les collaborateurs de ce qu'on appelle les collaborateurs de la zone de création de valeur au cœur du projet de l'entreprise. Et remettre les collaborateurs du travail réel au cœur du projet d'entreprise, c'est remettre le travail au cœur du sujet de l'entreprise. Et donc, la RSE, comment est-ce qu'elle se lie en fait à ce travail-là? C'est là qu'elle deviendra utile, authentique et qu'elle fera sens pour tout le monde, aussi bien pour les gens qui sont dans les usines ou dans les plateformes de gestion de stock que pour les fonctions support. Voilà, c'est ce lien-là qui nous paraît essentiel, c'est celui du travail.
Et alors, du coup, comment est-ce qu'on fait pour avoir ce lien entre les fonctions support, le cœur de l'activité? Est-ce que vous avez des exemples de structures qui ont mis des choses en place qui vous semblent de bonnes idées, de bons retours d'expérience à partager?
Alors, on a des méthodes qu'on déploie et lorsque les entreprises, donc nous, on propose cette méthode-là, en particulier qu'on va vous présenter maintenant, qui est en trois temps, en quelque sorte. Et ce qu'on peut témoigner, c'est que lorsque les entreprises qu'on accompagne les testent, en tout cas, essaient de les mettre en place, parce que c'est jamais, là, on va vous raconter un truc parfait, mais lorsqu'elles en font des bouts, eh bien, ça fait bouger les lignes et ça, effectivement, ça fonctionne plutôt bien. Et on n'a rien inventé, encore une fois. On est allé chercher des pratiques qui se font plutôt vis-à-vis de la communication client, du marketing client, qui est en fait de commencer, notamment pour les gens qui sont responsables de l'accompagnement du changement, les gens qui sont responsables, les directions de la transformation, les directions de l'innovation, toutes celles qui ont besoin finalement des forces vives de l'entreprise pour que leur projet avance, et donc bien sûr aussi les directions RSE, enfin on en est convaincus, la première des choses à faire, et donc le premier élément de cette action-là, c'est de réaliser une cartographie de l'interne. Parce que impliquer l'interne, impliquer les collaborateurs, ça ne veut rien dire. Les collaborateurs, c'est personne. En fait, les collaborateurs, c'est une complexité relationnelle qu'il faut avoir en tête, qu'il faut cartographier et bien connaître cet interne, bien savoir cartographier qui travaille où, où sont les usines de production, ils sont combien dans ces usines de production, c'est quoi les métiers qui ont lieu dans ces usines de production, et au siège, c'est qui, ils sont combien, ils sont où, et comment ils travaillent. Et avoir cette cartographie-là, c'est pas très fun pour des communicants, par exemple, c'est ni plus ni moins un gros tableau Excel, hein, avec des tas de lignes et des tas de colonnes, hein. Mais ça, ça permet de documenter finalement les différents types de travail qui se font dans l'entreprise. Et ça, c'est essentiel. Si on veut ensuite aller les chercher, les impliquer, il faut savoir à qui on s'adresse et où ils sont. Donc ça, c'est la première chose, c'est la cartographie. Le deuxième outil, une fois qu'on a cartographié, là aussi, c'est du design thinking, hein, voilà, c'est d'aller écrire les personas. Lorsqu'on a besoin d'aller impliquer les collaborateurs d'un plateau téléphonique sur un sujet particulier, que ce soit de la RSE ou autre, eh bien, si on sait finalement décrire le persona de ce plateau téléphonique, combien de fois il se réunit par semaine ou par mois en vrai avec son manager pour échanger sur un certain nombre de sujets, comment il travaille, combien de temps il passe derrière son ordinateur, est-ce que c'est quelqu'un qui va s'informer plutôt en continuant à se connecter au-delà de ses horaires de travail, ou est-ce, je veux dire, pendant ses pauses, ou est-ce qu'au contraire, il va plutôt n'avoir qu'une envie, c'est de déconnecter et de lire plutôt des affiches ou, voilà, ou de faire d'autres choses. Ça, c'est une façon de décrire la manière dont chacun des grands métiers d'entreprise se comporte à l'égard de l'entreprise et dans quel type de relation il se trouve vis-à-vis de l'entreprise. Ça, c'est donc le deuxième outil. Après la cartographie, c'est les personas. Et donc, Gaëlle va vous parler de la troisième, puisque c'est une grande spécialiste, du troisième outil.
Le troisième outil, c'est un outil également hérité voilà, du design thinking et des méthodes agiles. Donc, c'est peut-être certains auditeurs du podcast connaissent. Il s'agit de l'Empathy Map, carte empathique en français. L'intérêt de cet outil, c'est de se mettre vraiment dans la peau des collaborateurs qui sont concernés par une transformation, un changement, quel qu'il soit, pour vraiment percevoir en fait ces perspectives de changement avec leurs lunettes, leurs sentiments. Et ça, bien évidemment, dans un objectif de pouvoir anticiper les impacts, identifier des situations qui vont être bloquantes, etc., etc. Donc si on est dans, je dis n'importe quoi, dans le cadre d'un projet de transformation où on va faire évoluer des pratiques de production pour être plus durable ou plus responsable demain, par exemple, faire ce travail d'Empathy Map avec un groupe de collaborateurs des équipes de production, c'est vachement intéressant. Ça, on va vraiment questionner ce qu'ils pensent aujourd'hui, la façon dont ils travaillent, de leur organisation, c'est un petit peu le point de départ de leur vécu. On va questionner ce qu'ils disent aussi quand ils parlent de ce projet-là, c'est quoi qui s'exprime comme frein. On est vraiment dans les discussions presque de la machine à café. On va questionner bien sûr leurs attentes. Et d'ailleurs, on va peut-être se rendre compte qu'ils n'ont pas d'attente. Et ça, ça va nous donner un indicateur aussi sur la pédagogie qu'on va peut-être devoir faire par rapport à ce projet de changement. Et puis, et c'est ce qui est le plus intéressant, je trouve, dans l'Empathy Map, c'est le questionnement du registre émotionnel par rapport à ce projet de changement. Comment est-ce qu'ils le vivent? Est-ce qu'il y a du ras-le-bol? Est-ce qu'il y a de la tristesse de devoir renoncer à un certain type de mode de fonctionnement? Est-ce qu'il y a de la surprise? Et puis, bien évidemment, est-ce qu'il y a des peurs? Et quelles peurs s'expriment? Comment est-ce que, elles se justifient? Et là, derrière, bien sûr, les impacts liés à ce projet. Donc, c'est un outil qu'on trouve intéressant et qu'on décrit dans l'ouvrage, qu'on peut vraiment utiliser pour des projets d'entreprise en interne, parce qu'il permet à la fois de purger entre guillemets les émotions négatives Et puis, il envoie aussi un signal positif qu'on prend en compte les besoins des collaborateurs. C'est un signal de reconnaissance, de considération. Et finalement, lorsqu'on est dans un projet de changement, quel qu'il soit, c'est un signal qui est important pour mobiliser les équipes autour de ce qui va changer.
Ok, donc la méthode, c'est donc de cartographier l'interne, de bien savoir qui sont nos interlocuteurs, c'est qui les collaborateurs, un peu leurs habitudes de travail, de communication, d'information, vraiment savoir comment ils sont organisés concrètement dans chaque équipe, et puis ensuite questionner de manière empathique leurs réactions, leurs émotions par rapport à un changement. En fait, ça demande vraiment de sortir du bureau et d'aller sur le terrain, d'aller parler aux gens. C'est vrai, enfin.
On peut pas faire autrement. En fait, c'est impliquer vraiment les salariés. Ça demande de l'énergie et de l'action, et ça demande des efforts. Et c'est ça aussi le message de notre livre, à une époque où les solutions digitales sont nombreuses pour faire les choses plus vite ou autrement. Il faut pas oublier que le changement, quel qu'il soit, ne se produit qu'avec du cerveau, du sang et de la chair humaine, hein, puisqu'il y a le cerveau qui est masculin. Et donc ça, c'est indispensable de s'en souvenir, et on croit beaucoup que les entreprises aujourd'hui perdent une partie de ce que les collaborateurs pourraient apporter comme implication, parce que, alors c'est pas de la fainéantise, hein, parce que par ailleurs, il y a tellement de projets. Il y a tellement de choses. Un projet chasse l'autre au niveau des fonctions support. Un projet digital chasse l'autre. On dématérialise toutes les procédures. La réglementation est de plus en plus complexe, qui fait que on n'a plus le temps, ou on ne prend plus le temps de faire cet effort. Et pourtant, il n'y aura pas d'autre choix, sauf à avoir des robots à la place des collaborateurs. Mais le jour où on aura des robots à la place des collaborateurs, c'est des robots qui forcément auront développé des capacités humaines. Et donc, il faudra faire le même effort avec eux aussi, on en est convaincus.
Après, ce travail de cartographie et de persona, une fois qu'on l'a fait, il n'est pas perdu, il peut servir sur plusieurs projets.
Exactement.
C'est l'outil de travail numéro un des personnes dont le métier ou dont une partie de l'activité concerne l'implication des collaborateurs. Donc, c'est les RH, encore une fois, les directions de la transformation. Les communications internes, bien entendu, ça c'est même leur premier outil, c'est eux qui doivent en être les dépositaires à notre sens. Et puis toutes les structures qui ont besoin de faire travailler les gens ensemble, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pratiquement tous les métiers en fait.
Est-ce que même avec les meilleures méthodes et méthodologies du monde, il y a quand même des personnes qui peuvent dire « Non mais moi, de toute façon, votre changement, votre projet RSE, être écolo au boulot, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, l'électricité au boulot, je ne la paye pas, donc je m'en fiche, pour prendre un sujet d'actualité. » En fait, comment on fait pour changer, pour essayer de convaincre même les personnes qui sont les plus réfractaires, qui ont l'impression qu'elles s'en fichent, mais complètement quoi?
Ça, c'est une très bonne question. En fait, statistiquement, quel que soit le sujet d'ailleurs, que ce soit un sujet d'écologie au travail, de RSE, ou voilà n'importe quel autre projet dans une entreprise, il y a toujours une frange de la population qui va être complètement désintéressée, voire réfractaire, comme vous le décrivez, Cassandre, par rapport à ce sujet. Il y aura souvent une grosse majorité qui va être relativement neutre, et puis bien évidemment quelques personnes qui sont, elles, totalement convaincues tout de suite et prêtes à s'impliquer. Je fais le parallèle, dans le digital, on appelle ces gens-là des early adopters, c'est ceux qui adoptent tout de suite les nouveaux outils, toutes les nouveautés, etc. Et en fait, le risque qu'on peut avoir, c'est de perdre notre temps et notre énergie à s'arc-bouter, à vouloir absolument embarquer des personnes qui n'en ont pas du tout envie, qui sont réfractaires de toute façon, alors que finalement, on a sous la main, au contraire, des personnes qui, eux, ont vraiment envie d'y aller. Alors, dans l'ouvrage, on cite une étude du cabinet Occurrence, qui a été menée en 2020, certainement juste après le début de la crise sanitaire, et qui dit que 86% des salariés, donc, qui répondaient à cette enquête, se déclaraient plus intéressés par la RSE qu'ils ne pouvaient l'être il y a 2 ans. Donc, on voit déjà une sensibilité qui a changé. Et puis, pour 2/3 d'entre eux, poursuit l'étude, ils étaient même prêts à proposer des initiatives pour nourrir la réflexion de leur entreprise. Et ça, pour nous, mais c'est une mine d'or, c'est une vraie opportunité, en fait. Alors, ces salariés-là, c'est Sarah Durieux, qui est l'ancienne dirigeante de Change.org, elle les appelle les activistes. En fait, c'est toutes les personnes qui sont engagées aussi à titre perso, souvent, dans des associations ou autres, pour défendre des causes diverses et variées, et qui finalement aimeraient bien aussi que leur entreprise les aide à changer le monde, si on inverse un petit peu la façon de regarder les choses. On peut par exemple citer cet exemple qui est assez connu d'une collaboratrice d'un grand cabinet de conseil qui était à titre personnel elle-même très impliquée dans la défense des droits des personnes queer et LGBT+, et qui a réussi à mobiliser en interne un réseau de collègues pour sensibiliser en fait sur les discriminations vécues. Et grâce à toutes les actions qui ont été menées à son initiative, en fait, l'entreprise a fini par signer la charte d'engagement de l'autre cercle. Donc on voit finalement qu'on peut s'appuyer sur les collaborateurs et que c'est un bon moyen pour faire converger à la fois les intérêts de ses salariés, activistes ou non activistes, de l'entreprise et puis du monde, de la planète, si on peut dire, en général.
Moi, je suis forcément tout à fait d'accord avec ça, puisque c'est le principe de ce podcast, de dire... Vous êtes salarié, quel que soit votre rôle, vous pouvez faire avancer les choses dans votre entreprise et c'est même hyper pertinent, c'est attendu, c'est utile. J'approuve à 100%.
On pourrait ajouter quelque chose à ce sujet d'ailleurs. On propose dans le livre de pratiquer ce qu'on appelle un peu pompeusement la RSE symétrique. Ça revient exactement à répondre autrement aussi. Et complémentairement à ce que disait Gaëlle, à la question de qu'est-ce qu'on fait des personnes qui s'en fichent, qui sont pas sensibles ou qui se sentent pas impliquées sur les sujets de RSE. Le risque à ne pas du tout traiter leur cas, je dirais aussi, c'est par contre qu'ils deviennent des opposants ou qui se désengagent complètement aussi de leur propre travail d'une manière plus générale. Pour tenter d'apporter, encore une fois, de venir nourrir ces gens-là aussi, en tout cas d'être irréprochable vis-à-vis d'eux, qui seront les premiers à repérer le greenwashing, par exemple, des entreprises, ce qu'on propose, c'est de revenir à la définition même de ce qu'est la RSE décrite par la norme ISO 26000, si je ne dis pas de bêtises, et de se poser la question de cette définition-là de la RSE d'abord et prioritairement vis-à-vis des collaborateurs, c'est-à-dire appliquer la stratégie RSE d'abord pour les collaborateurs, puis pour les clients et le monde, voilà, et non pas et qu'est-ce qu'on pourrait faire à la fin pour les collabs, histoire de pas les oublier au passage. Et les trois questions qu'on propose de se poser, du coup, c'est quel est l'impact des décisions et des activités de l'entreprise sur ses collaborateurs, puisque ça, c'est vraiment les questions que pose la norme ISO 26000 sur la RSE. Comment est-ce que le comportement éthique de l'entreprise, éthique et transparent en interne, se manifeste-t-il? Voilà, donc comment est-ce qu'il peut aussi se manifester ce comportement vis-à-vis de l'interne pour qu'il soit éthique et transparent? Et enfin, quelles sont les initiatives respectueuses que peut prendre l'entreprise à l'égard de ses collaborateurs? Et si une stratégie RSE, on peut rêver, parce que nous, on est les aficionados des collaborateurs, donc évidemment, on a ce prisme-là, mais imaginons une stratégie d'entreprise en matière de RSE qui commence par venir nourrir répondre à ces questions-là, avant même de répondre aux questions qui sont relatives à comment on y répond vis-à-vis des clients, vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis des fournisseurs, et vis-à-vis du monde. Mais alors là, on est irréprochable. Donc non pas qu'on va aller forcément chercher les collaborateurs complètement réfractaires, mais au moins ils n'auront rien à reprocher à l'entreprise de cette nature-là parce qu'ils seront d'abord eux au cœur de la stratégie RSE d'entreprise. Alors, c'est ça qu'on qu'on voudrait aussi pouvoir promouvoir dans une nouvelle vision, cette nouvelle grammaire, en fait, de l'entreprise et des relations.
Ouais, et peut-être que ces oppositions, elles sont aussi parce que des salariés se sentent pas reconnus au sein de l'entreprise, et du coup, c'est leur manière à eux de montrer qu'ils sont là et qu'ils existent et qu'il faut les prendre en compte.
Mais tout à fait, c'est, voilà, c'est presque comme un adolescent, hein, par moment. Il va faire le pénible parce qu'on ne reconnaît pas, on ne l'entend pas, et que lui a des besoins ou des questions auxquelles, finalement, la structure familiale n'a pas prévu de répondre immédiatement. Ouais, voilà, là, on est un peu dans ce même, cette même idée-là. Encore une fois, ça nous ramène juste au fait que la relation, c'est, l'entreprise, c'est juste un gros nœud de relation humaine. C'est là-dessus qu'il faut travailler.
Ouais. Et les nœuds, les lignes, les voiles, c'est aussi un peu le thème de votre livre. Vous faites beaucoup de métaphores sur le bateau, la voile, etc. Donc, je vous reconnais bien là. Merci en tout cas d'avoir partagé toutes ces astuces et méthodologies avec nous. Donc, on retrouve dans votre livre. Alors, le livre, c'est une manière de se former, mais enfin... Je trouve qu'il y a tellement à faire et à apprendre. Est-ce que il y a des formations qui sont sur ce thème-là, de comment on implique, comment on motive un groupe, qu'on peut recommander ?
Alors, il y a des formations sur l'intelligence collective, il y a des formations de communication interne, hein, on en trouve beaucoup. Mais c'est vrai que finalement, poser comme ça, formation sur comment on implique les collaborateurs, sauf erreur, on n'en a pas vu encore, et ben vous êtes en train peut-être de nous donner une idée, alors rendez-vous dans quelques mois, peut-être qu'avec Gaëlle, on les aura montées ces formations-là.
Alors, je partagerai si c'est le cas.
D'accord, merci.
Ce qu'on peut dire en tout cas avant d'avoir peut-être lancé nos propres formations, c'est que quoi qu'il arrive, il n'y a pas de recette toute faite, il n'y a pas de baguette magique d'ailleurs qui nous soit livrée avec notre ouvrage. On a on a au travers de l'ouvrage ramasser un certain nombre d'outils, interviewer un certain nombre d'auteurs, explorer des pistes d'action, et c'est autant de choses qu'on invite bien sûr les gens à tester, à expérimenter, hein, faire un petit peu dans cette logique qu'on évoquait de petits pas pour faire bouger les lignes des organisations. Et on sait bien que selon les contextes, il y a des fois où il y a des choses qui vont prendre, des fois où les choses prendront moins. Ce qui est sûr, en tout cas, enfin c'est vraiment notre conviction, c'est que ça vaut le coup d'essayer. On prend pas de risque à essayer.
Mmh. Ouais. Donc, dans un premier temps, si on veut faire avec ce qu'on a, on achète votre livre, on lit les méthodes et on l'applique sur un premier terrain de jeu à notre portée.
Eh bien, exactement.
J'ai bien compris l'effectuation. Je demande toujours aux invités du podcast, pour terminer, s'ils ont un conseil écolo au boulot à donner. Donc ben là, on sort peut-être un petit peu de l'expérience collaborateur, sauf si vous voulez... donner un conseil sur ce sujet-là. Je vous écoute. Qui est-ce qui souhaite commencer ?
Moi, j'aurais envie spontanément de dire une chose. Être écolo au boulot, c'est être humain au boulot. Et ça commence par ça. Et après, on a des chances d'être écolo au boulot. Mais en commençant par l'humain, vraiment. C'est le gros message de notre livre, et c'est ce à quoi on croit profondément.
Ouais, bah, l'écologie, c'est la vie, donc forcément.
Voilà.
Exactement, et pour aller dans le même sens, que ce soit en matière de RSE ou sur bien d'autres sujets, souvent on a le sentiment que les salariés sont considérés comme le problème, alors que pour nous, et en particulier en matière justement d'écologie au boulot, les salariés font partie de la solution. Dans ce monde qui est, encore une fois, aux prises avec des grands défis et une complexité qui ne va pas s'arrêter, on est persuadé que s'entraider, c'est le plus petit risque à prendre, mais c'est surtout la plus évidente des opportunités à saisir. Donc, allons-y.
Trop bien, merci pour vos conseils très avisés, très sages. Eh bien, encore une fois, un grand merci pour votre partage. Donc, je rappelle le titre de votre livre, c'est « Impliquer vraiment les salariés » aux éditions...
Vuibert.
Ok, et de toute façon, je mettrai les informations en description de cet épisode.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Cassandre, au revoir.
C'est la fin de notre épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous avez maintenant les clés pour impliquer les collaborateurs dans une démarche RSE, et c'est tout un programme à mettre en place. D'abord pour comprendre ses collègues, qui ils sont, ce qu'est le sens pour eux, comment ils travaillent, ce qui permet ensuite de s'adresser à eux de manière pertinente et proposer des démarches dans lesquelles ils pourront mieux s'impliquer. Vous retrouverez toutes les informations sur l'ouvrage de Fabienne et Gaëlle dans la description de cet épisode ou sur le site internet d'Écolo au boulot. C'est aussi là que vous pourrez vous inscrire à la newsletter, qui à partir de ce mois de décembre 2022 prend une nouvelle forme. Chaque mois, vous y retrouverez évidemment les derniers épisodes du podcast, mais aussi un dossier avec l'éco-geste écolo au boulot du mois pour faire le plein d'idées concrètes et agir à son niveau. Je vous laisse aller vous y inscrire et vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour un prochain épisode. Ciao !